Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ce soir pour le début de trois séances qui vont bien sûr traiter des lois dans la crise, puisque c'est le thème. Et en ce qui me concerne, je vais vous parler de la musique, des crises de la musique et des musiciens, puisque il n'y a pas, évidemment, dans toute cette recherche de bien-être, ce chaos, il n'y a pas que les individus qui sont touchés, les individus qui ne font pas de musique. La musique, cet art de la joie ou cet art des émotions, est aussi touché par le chaos et par du désordre infini, puisque nous sommes des Jaurès qui ont parlé de ça déjà. Jaurès, au début du XXe siècle, il parlait de désordre infini, de tumulte. Mais je ne vais pas parler de n'importe quelle musique, puisque je vais parler de musique de minorité, et en l'occurrence aujourd'hui, ça concernera les musiques et les danses africaines. Vous m'entendez bien, ça va?
Oui.
Pas trop fort non plus, impeccable. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que traiter des danses et des musiques africaines, vous doutez bien, puisqu'on rappelle très souvent aux enfants que l'Afrique n'est pas un pays, mais un continent. Et parler des danses et des musiques africaines, heureusement que j'en parlerai que de certaines aussi, ici en France, qui viennent de là-bas. Et je vais préciser de quelle musique et danse africaine je vais parler. Si je m'intitulais de la brousse aux salles de cours, c'est parce qu'il est étonnant depuis les années 70, ça ne me semble en tout cas pas étonnant forcément aujourd'hui, il est étonnant de voir que des pratiques exotiques se font ici, en France. Ça nous paraît évident, mais ça ne l'est pas, par exemple, pour ma grand-mère, qui est née en 1930, qui est encore vivante. Donc, quand son petit-fils lui parle de « bien voilà, je fais de la percussion africaine », elle trouve ça un petit peu étrange. Mais, en même temps, je suis son petit-fils, et comme elle-même, il n'y a pas de problème. Mais j'ai de la chance. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai amené des copains, elle les a affectés aussi. Moi, je suis un petit peu un exilé aussi de la musique, puisque je viens de Gascogne, et on sait très bien que la Gascogne, c'est pas vraiment la France. Puisqu'on y parle l'occitan et non pas le patois. Merci. Encore une minorité. Donc la pratique des percussions et des danses africaines fait désormais partie du paysage culturel français depuis, je vous l'ai dit, les années 70. Et c'est vrai qu'on s'étonne plus aujourd'hui de voir que la MJC ou l'association culturelle de notre quartier propose des cours et des stages de percussion, de danse orientale aussi, brésilienne, africaine, toutes qui sont des pratiques de musique dites exotiques, ou musique du monde, ou danse du monde. C'est selon les époques qu'on utilise ces termes. Il faut savoir peut-être à quel moment ces termes ont été utilisés. C'est vrai que ça ne serait plus de parler de sauvage, mais du temps de ma grand-mère, un peu plus, ou de mon arrière-grand-mère. Je vais un peu loin. J'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents, puisqu'ils sont morts, j'avais 18 ans. Mes arrière-grands-parents. Bon. Mais en Gascogne, il paraît que c'est du bon cholestérol et que ça permet de tenir longtemps grâce au confit de canard. Pas de loin, monsieur. J'ai pas mal. Le loi, c'est le territoire. Voilà. Donc vous entendrez dans cet enregistrement qu'il y a une bonne ambiance. Si vous n'êtes pas là, ceux qui vont écouter l'enregistrement, tant pis pour vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Comment une musique venue d'ailleurs réussit-elle à pénétrer durablement des investissements et des passions? Comment une musique que rien ne rattache directement à la prime éducation de l'enfance arrive-t-elle à s'accrocher à nos intérêts jusqu'à devenir pour certains une activité de loisir? Et pour d'autres, un style de vie, une possibilité rémunératrice, un travail et parfois même un métier. Il s'avère aussi que je suis sociologue, donc de temps en temps je vais utiliser des phrases un petit peu bizarres pour la compréhension des choses. Et d'ailleurs le terme « chose » est très important, on utilise beaucoup le terme « chose » dans sociologie. Une chose, ce n'est pas un truc, une chose, c'est un objet, c'est-à-dire quelque chose qui préexiste à nous, qui n'est pas un vrai Dieu, vous l'aurez compris. Alors, il faut essayer de comprendre une pratique. On l'a vu, on l'a dit, il y a un voyage qui a été effectué. Il faut essayer de comprendre une pratique. Et en même temps, la comprendre, comprendre une pratique, c'est quoi? C'est une chose que l'on pratique, et c'est être capable de se comprendre dans cette chose que l'on pratique, ou de se comprendre dans cette pratique. Dit autrement, si je veux comprendre ce que je fabrique, ou ce que je fais, lorsque je joue, ou lorsque je danse, je me place dans une démarche d'interroger l'histoire de cette pratique, ici les danses et les percussions africaines, et en même temps le moment où je prends l'histoire en cours, c'est-à-dire où je prends le train en marche. Je suis né à la fin des années 60, et bien, dans les années 70, je ne pratiquais pas toutes ces musiques ou la danse. Eh bien, j'ai commencé à les pratiquer fin des années 80, j'ai pris l'histoire en cours, ce n'était pas la même que la première génération qui a vécu ça. Et je peux aller aussi beaucoup plus loin que le moment où je suis né, c'est-à-dire, et je vais en parler tout à l'heure, la colonisation, bien évidemment. Enfin, je vous dis bien évidemment, c'est pas forcément évident, mais... Bref. Donc, je prends le train en marche. Alors, vous l'aurez compris, en apprendre sur soi, c'est proposer toute une série de questions sur le monde ou l'univers dans lequel je vais. Alors, je ne dis pas que comprendre un monde, c'est facile. On le voit bien aujourd'hui, dans le tumulte de nos vies dont je parlais tout à l'heure, ça ne va jamais de soi. Encore moins lorsqu'une pratique est investie avec le cœur ou la passion, ou les raisons du cœur. Pour l'individu, l'expérience vécue reste subjective et personnelle. L'intime, c'est l'intérieur, et c'est aussi la certitude intuitive d'une expérience enchantée, chaude, qui oppose une forme de résistance à l'analyse qui est vue comme froide et désenchantée. Donc en gros, je suis schizophrène. Pourtant, l'utilité de l'analyse, ou des analyses, des questions que l'on pourrait se poser, ne fait aucun doute lorsqu'il s'agit de comprendre, par exemple, les difficultés ou les crises que traverse un monde et ses pratiques. Et si ça traverse un monde et ses pratiques, et que je suis dans ce monde et ses pratiques, les questions doivent être importantes. Bref, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la création d'un monde composé d'artistes, musiciens et de danseurs d'origine africaine, et vivant ici, venant de là-bas et vivant ici, et aussi de leurs élèves européens qui prennent des cours, jouent, dansent avec eux, dans des troupes ou des groupes, pour des spectacles ou des événements internes à l'association, comme par exemple les restitutions de fin d'année, auxquelles vous allez voir vos enfants qui ont fait de la danse orientale avec un intervenant musique ou un intervenant danse, pardon, ou encore jouer des instruments musiques avec un intervenant musique. Voilà, tout ça, ça fait partie des pratiques culturelles des Français. Depuis les années 70, le blanc, je n'hésite pas à utiliser des termes peut-être qui peuvent vous sembler un peu provocateurs, hein, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un métier. Ici, on fait de la critique politique, en tout cas, je sais. Depuis les années 70, le blanc vit une relation privilégiée avec le noir, dont le principe de cette relation est l'ouverture sur la culture de l'autre. Un mélange entre respect et fascination de différence, relation qui n'a plus rien à voir avec celle du temps de la Troisième République et de ses expositions universelles et coloniales, ou encore les jardins zoologiques et d'acclimatation de 1877 à 1931, à Paris, Strasbourg, Marseille ou Lyon. Par exemple, à Paris, en 1931, Il y a eu plus de 8 millions de visiteurs pour l'exposition. En 1922, au jardin zoologique d'acclimatation de Marseille, donc 1922, 9 ans avant, plus de 3 millions de visiteurs, j'aurais dû dire ça en premier, et 31, plus de 8 millions de visiteurs. Donc ce temps-là, je vous le rappelle, c'était le temps où le public français venait assister à des reconstitutions de vie quotidienne de village, qui mettaient en scène notre indigène, l'indigène de notre empire colonial, de notre république. Ça se passait entre exposition, théâtralisation, exhibition aussi. C'était des moments où le frisson du sauvage, le frisson du sauvage, de la découverte du sauvage, on pourrait l'appeler le frisson sauvage, c'est chouette, frisson sauvage, et le spectacle authentique était garanti. Je vous renvoie, même si je mettrai des références bibliographiques par la suite, hein, vous aurez ça aussi sur quand vous aurez écouté le cours, si vous voulez le réécouter. Et je vous parlerai, enfin, je mettrai particulièrement, parce que je n'ai pas le temps d'en parler de ça, et c'est bien dommage, c'est un ouvrage collectif qui s'appelle « Zoo humain » et qui a été fait par des anthropologues et des historiens, qui est paru en 2002. Zoo humain, le temps des éditions. Aux éditions de la découverte. Donc pas très cher. C'est un gros pavé, parce que c'est un ouvrage collectif. Donc le spectacle authentique était garanti. Alors, je disais, ce temps est révolu. Mais, sans doute pas le désir de l'authenticité. Parce que, lorsque des producteurs de spectacles sortent des pygmées de la forêt centrafricaine pour les mettre sur nos scènes de centres culturels, on exige, comme dirait Anne Decoré-Alia, une altérité non falsifiée. Dans son article « L'exotique, l'ethnique et l'authentique, regard et discours sur la danse d'ailleurs », elle parle de cette altérité non falsifiée, de cette authenticité, qui est un pur désir fantasmatique de la tradition immuable, qui se retrouve aussi aujourd'hui dans les spectacles de chant et de danse des circuits touristiques. Donc vous voyez, j'ai parlé de 1931, c'est terminé, mais l'authenticité, elle reste vivante, elle reste vivace. Nous voulons de l'authenticité quand nous voyons des chants et des danses traditionnelles. C'est un enjeu. Donc je rappelle qu'un enjeu, c'est ce qui est en jeu. Donc il y a des choses qui sont en jeu. Et ça rigole pas, c'est des gagnants, des perdants. Et oui, comme dans tout jeu. Et nous prenons soin, souvent involontairement, on appelle ça l'involontariat, d'écarter les problématiques sociales et culturelles de la décontextualisation. Qu'est-ce que la décontextualisation? Pour Edouard Winke, qui est anthropologue, il y aurait un goût ancien pour l'exotisme, mais une soif intense de se représenter l'autre avec un grand A, d'en parler aussi, de lui emprunter diverses choses, la nourriture, le scalp, les fétiches, les objets, les coiffures, les dreadlocks, par exemple, une mode ethnique. Et toujours pour Winke, le djembé symboliserait le tambour, djembé symboliserait le tam-tam dans la mémoire collective occidentale des nouvelles générations de l'industrie de la world music, dont je pourrais faire partie, puisque dans les années 80, j'avais une vingtaine d'années. Un constat. Les percussions et les danses africaines ne font pas exception sur ce goût ancien pour l'exotisme et cette soif intense de se représenter l'autre et de lui emprunter diverses choses. Elles ont fait un grand voyage, et particulièrement l'instrument de percussion, je viens de le dire, appelé djembé ou yembe. On peut être d'accord pour se réjouir d'être branché sur des sonorités africaines, pourtant, ce n'est pas la même musique ici et là-bas. Il y a donc un changement de sens lorsqu'on franchit les frontières. Un seul aspect du phénomène culturel est gardé, du phénomène culturel, un seul aspect est gardé, le djembé, Alors qu'il existe d'autres instruments de musique tout aussi importants qui accompagnent le djembé. Son voyage a tellement bien réussi qu'il est sans doute l'instrument de percussion le plus vendu au monde. De plus, le répertoire de cet instrument est enseigné aussi dans des associations et il sert même de tambour, comme un autre, dans l'accompagnement de cours de danse pour jouer des rythmes qui n'appartiennent pas à son répertoire. Tambour djembé vient de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que le djembé peut être utilisé aussi comme instrument de percussion comme un autre pour des cours, alors qu'il vient d'Afrique de l'Ouest, pour des cours de danse congolaise. Ça peut arriver. On le retrouve aussi dans des chansons de comment il s'appelle déjà, des chansons d'un chanteur américain, black, où il y a du djembé dedans. Aidez-moi les musiciens. Il y en a tellement, oui, d'accord, mais bon, si on a écouté, on a reconnu qu'il y a du tambour dedans. Bon, j'ai tapé le nom, en tout cas. Ben Harper, je te remercie. Voilà, mais non, mais quand on fait des efforts, hein, je savais que je posais une bonne question, une devinette plutôt. Bon, en même temps, peu de choses ont été écrites sur le djembé. Peut-être parce qu'il fait partie de la tradition orale. En tout cas, ce n'est pas un objet prestigieux. Travailler sur le djembé aujourd'hui, bon, ce n'est pas très prestigieux comme objet de recherche. En revanche, les études sur les sociétés dont il est issu sont beaucoup plus répandues. Car en effet, il n'est pas né ici, mais quelque part en Afrique de l'Ouest. Aussi, je parle d'un terrain concret, c'est-à-dire des pratiques des percussions et des danses d'Afrique de l'Ouest ici, en France, offre à des individus l'occasion d'approcher une culture artistique peu connue et il est possible aujourd'hui de prendre des cours de percussion de danse africaine partout en France, je pense aussi partout en Europe, dans l'Occident en tout cas. Ce sont des pratiques qui entrent dans le cadre de ce qu'on appelle communément les pratiques, des activités de loisirs ou les pratiques de loisirs. Ces pratiques ont remporté un vif succès, se sont rapidement imposées à partir des années 80, en plein boom des créations d'associations. Ce succès pourrait s'expliquer par l'intérêt grandissant de pouvoir accéder facilement à des pratiques artistiques sans véritablement droit d'entrée. C'est-à-dire, il y a des inscriptions sans sélection, ce n'est pas comme le conservatoire, les prix sont attractifs, l'apprentissage est directement fait avec l'artiste et non pas un professeur. On peut jouer une musique orale sans passage obligatoire par le solfège, le fameux solfège que les enfants n'aiment pas. Non, c'est embêtant le solfège. Contrairement aux pratiques musicales enseignées en école de musique ou au conservatoire. Bien que les écoles de musique et les conservatoires soient de plus en plus tolérants avec les enfants qui ont du mal avec le solfège. Mais c'est à leur risque des périls, bien évidemment. C'est-à-dire de s'arrêter à un moment parce qu'ils ne suivent plus le solfège. Donc, quelque part, le professeur qui arrive avec le djembé va sauver ses pauvres enfants du système. C'est un peu ce qui m'est arrivé, j'ai été sauvé moi aussi du système. De même, il y a aussi des raisons matérielles de sa percée. C'est-à-dire, c'est un instrument bon marché, il est accessible, il est robuste, on peut le transporter facilement, bien sûr moins qu'une flûte avec, on est d'accord, hein, mais on peut quand même le transporter facilement. Et pour le débutant, le son est identifiable. Et il a un spectre sonore très large, en tout cas plus que d'autres instruments de percussion. Mais ça, c'est sa modification récente. Autrefois, c'était un tambour qu'on tendait avec du feu. Aujourd'hui, c'est un tambour qu'on tend avec des cordes de voile. Donc ce ne sont pas des cordes souples, les cordes de voile, ce n'est pas les cordes donc cordes de voile, cordes de... Les autres cordes qu'on pourrait confondre en cordes de voile, et les autres cordes de... Pas de montée, comment on appelle ça, d'escalade. Non, alors là, ça dort. Non, parce qu'on pourrait les confondre, elles ont un peu la même couleur, elles sont fans, elles sont dans des couleurs différentes. Donc corde de voile, parce qu'il faut que ça tire, pour que ça tienne bien. Et donc on n'a plus besoin de le chauffer. C'est comme les pots en plastique pour les arrocas, vous voyez. Ce sont des techniques modernes qui sont au service d'une exploitation systématique des possibilités de l'instrument. Ce qui n'était pas le cas avant. Il n'y a pas si longtemps, donc les années 70, par exemple. Donc qu'est-ce qui s'est passé fin 80, début 70? Eh bien, les MJC ont commencé, les maisons des jeunes de la culture, ont commencé à recruter des animateurs. Et quelques dix ans plus tard, dans les années 90, c'est au tour de certaines écoles de musique et de conservatoires de région, comme le CRR, ici à Lyon, de proposer des cours de percussion dites africaines, pour les écoles de musique, vous voyez les termes, ou traditionnelles pour les conservatoires. Les termes sont différents pour les écoles de musique et les conservatoires. Dans le cadre, par exemple, d'une activité collective appelée musique d'ensemble, qui est une activité obligatoire pour tous les enfants, pour tout élève. Alors, c'est incontestablement un signe d'ouverture sur les musiques de tradition orale, mais qui n'aura pas duré partout. Par exemple, le CRR de Lyon possédait depuis 2002 un département des musiques du monde, dans lequel l'atelier de percussion afro-cubaine connaissait un vif succès. Et bien depuis 2009, la nouvelle politique du CRR a relégué les percussions orientales africaines ou afro-cubaines à des ateliers de découverte. Comme si on n'avait toujours pas découvert les Africains. Christophe Colomb n'a servi à rien. Bon, ce sont des termes, on est bien d'accord, mais on peut des fois être embêté par certains termes. Alors, les danses dites traditionnelles, par exemple Afrique noire, Maghreb, Brésil, etc., sont peu ou pas représentées dans les établissements d'enseignement artistique. Si on désire pratiquer la danse orientale, la danse africaine ou brésilienne, il faut se rendre, par exemple, dans des associations thématiques ou des MJC. Dans ce cas, on peut remarquer que ces danses ou ces cours de percussion ne sont représentés que dans des lieux de démocratisation culturelle, des lieux de loisirs. Que vient chercher un individu en prenant des cours de percussion ou de danse africaine dans ces associations? Qu'est-ce qui est transmis dans ces cours et qui les donne? Alors, poser ces questions sur les pratiques culturelles qui s'organisent ici en France ne doit pas faire oublier qu'il s'agit de pratiques sociales concrètes qui viennent d'ailleurs. Comment la musique et la danse sont-elles considérées dans le pays d'origine? Qui s'occupe de danser? Qui s'occupe de jouer la musique? Et comment s'organise la danse et la musique? Dans un premier temps, je vous propose de présenter les formes sociales générales de la société malinké, traditionnelle, pendant la période précoloniale et coloniale, jusqu'à l'indépendance. Ces indépendances africaines sont des politiques de revendication à l'autodétermination. C'est les indépendances des années 60 de tous les pays africains. Ces indépendances se définissent comme des révolutions culturelles et sociales, au sens fort, c'est-à-dire en tant que nation. Et nous verrons l'exemple des artistes de la Guinée sous Sékou Touré. Alors, mon travail se base sur une pratique de musicien accompagnateur de danse depuis 91, ou un petit peu plus, mais disons 91 surtout, un petit peu partout en France, surtout à Toulouse, Bordeaux et Lyon, mais aussi des entretiens auprès de danseurs et musiciens, anciens membres de ballet, pour la plupart, de ballets africains, et bien sûr de documents audiovisuels filmés, et d'enquêtes que j'ai pu faire à Bouaké, en Côte d'Ivoire, pendant deux mois, en décembre 96 jusqu'à février 97, pour étudier les organisations de fêtes et de mariages dans la ville de Bouaké. Bon, alors, présentation succincte de la société malinké. Alors, comment vous dire? Je vais faire très très vite. Vous pouvez dormir. Et je vous réveille après. Donc, les malinkés sont à l'origine des marchands et des guerriers de l'Afrique de l'Ouest. Ça plaira aux enfants, ça, les guerriers. Aujourd'hui, on les rencontre surtout où? L'Est de la Guinée. Donc, j'imagine que vous connaissez votre carte de l'Afrique, à l'est de la Guinée, minorité importante dans le sud du Sénégal, le sud-ouest du Mali et le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Pourquoi les Malinkés, cette ethnie, est-elle disposée comme ça un petit peu partout? Parce que je vous rappelle que les frontières des pays africains ont été faites par des Occidentaux. Donc il y avait de fortes chances que d'un côté et de l'autre de la frontière, on trouve la même ethnie. Bon, autrefois, ou il n'y a pas si longtemps, ou même dans le milieu rural, chez nous en France, les frontières étaient des frontières naturelles, a priori. Surtout dans les montagnes, c'était beaucoup plus facile. Alors, au XIIIe siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, le Mali est une province vassale, mais Soundiata Keïta, ça fait aussi, si vous regardez Kirikou, c'est un peu l'histoire, Soundiata Keïta, qui est l'ancêtre réel et mythique de l'Empire mandingue, il a formé une armée et il a fait la guerre en 1235, et il a conquis un vaste territoire qui va du fleuve Niger jusqu'au Sénégal. Donc c'est quand même un très très grand empire. Et les conquêtes, elles continuent jusqu'en 1390, c'est-à-dire 150 ans plus tard. Puis, comme toute civilisation impérialiste, à un moment, c'est terminé. Donc les Malinkés subissent des invasions de divers peuples et donc perdent beaucoup de terres, de terres. Et ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que Samori Touré tente de redonner à la société malinké l'importance qu'elle avait au 13e siècle. Samori Touré a posé beaucoup de problèmes, un peu comme Abdelkader ou comme d'autres, à la colonisation française, sans toutefois empêcher le développement. Alors, la culturation, c'est-à-dire des phénomènes d'emprunt ou d'imposition aussi, parce qu'une acculturation, c'est aussi une déculturation. La culturation religieuse a eu lieu très tôt. C'est-à-dire qu'on trouve, par exemple, en 1324, un souverain, Malinké, qui fait un pèlerinage à la Mecque. Donc les Malinkés forment un empire guerrier, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ils établissent de bonnes relations avec les souverains du Maroc et du Caire. Les rois Malinkés s'entourent de religieux musulmans, marabouts et conseillers, prédicateurs et jurisconsultes à la manière arabe. Donc les influences orientales sont très importantes, et notamment dans l'architecture. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Malinkés, comme tout peuple conquérant, ont une expansion territoriale et fédèrent les ennemis qu'ils rencontrent et qu'ils prennent sous leur joug et les convertissent à l'islam. Donc on assiste aussi à un syncrétisme, le terme est de Roger Bastide, qui a travaillé sur les permanences des cultures africaines, par exemple, après les commerces triangulaires, pour savoir qu'est-ce qui était encore africain dans les sociétés afro-américaines. Et lui parle du syncrétisme qui mêle les croyances locales à l'islam. Alors, la société malinké elle-même, alors elle est régie par un système clanique. Alors, le clan, c'est un nom commun, pour nous, cela équivaudrait, si vous voulez, au nom de famille, à un ancêtre commun, réel ou mythique, et un totem qui est représenté sous la forme d'un animal, par exemple. Dans un village, par exemple, les clans apparaissent spatialement au niveau des quartiers. Tous les clans sont liés entre eux par un système de relations de solidarité. Il y a des échanges matrimoniaux, bien évidemment. Les relations entre les familles, les lignages et les clans créent une forme de réciprocité, et il y a apparemment un consensus dans les relations interclaniques et dans les rapports politiques, car les clans se placent dans un système de caste, et se plaçant dans un système de caste, c'est-à-dire, je rappelle ce que veut dire caste, hein, ce sont des groupes héréditaires de statuts inégaux, donc héréditaires, on ne peut rien faire, c'est héréditaire, tant que ce n'est pas génétique, remarquez. Mais c'est héréditaire, donc on ne peut pas faire grand-chose. Donc on est obligé, dans cette relation de tension, d'avoir un consensus. Alors, jusqu'à l'époque coloniale, ces castes sont au nombre de trois. Les Horons, qui est la noblesse, les Dion, qui sont les captifs, et les Nirmakala, qui sont les statuts intermédiaires. Les Horons ont une autorité politique, le pouvoir, la richesse, qui est fondée sur la servilité des captifs. Ils font des métiers d'armes, le commerce, des activités agricoles. Les Dion, qui sont des captifs ou des esclaves, qui sont capturés lors des guerres. Et ils peuvent devenir aussi des captifs de la couronne et former une armée régulière. Et puis les Nirmakala, qui ont des activités spéciales, comme par exemple forgeron, cordonnier, artisan du bois, griot, c'est-à-dire les chanteurs et les musiciens. C'est eux qui nous intéressent. Ce qu'il faut peut-être retenir très rapidement, c'est que les activités sont héréditaires, sous menace de déchéance sociale. Et ça, c'est important parce qu'on va voir qu'aujourd'hui, beaucoup de musiciens africains ne sont pas griots, mais qu'ils jouent de la musique. Donc ça veut dire que la déchéance sociale n'existe plus, ou du moins pas vraiment. Qu'il y a exogamie de clan, c'est-à-dire que je peux me marier avec des clans qui sont externes, et endogamie de caste, je me marie quand même avec des gens de ma condition, même si les clans sont externes. Mais les rapports, je le rappelle, que c'est avant la colonisation, ou en tout cas avant aussi la... Les choses vont changer quand même dans les années 60, mais elles restent très vivaces jusqu'au XXe siècle, première moitié du XXe. Les rapports restent hiérarchiques dans les relations sociales, avec le système des castes. Pourquoi ? Parce que les noms marquent et désignent. Si je m'appelle un tel, ça veut dire, vous l'aurez compris, qu'en fait je fais partie d'une certaine caste. Donc c'est un nom qui me poursuit toute la vie, on peut dire. C'est pas autrement que dans nos campagnes aussi, où quand on porte un nom de famille, on se traîne toute l'histoire de la famille dans le village, et qu'on y soit pour quelque chose ou pas, par rapport à ce qui a été fait ou pas d'ailleurs. Donc la notion d'individualité, de personnalité, pas trop facile. Donc, reste hiérarchique les rapports dans les relations sociales générales, mais aussi dans les relations particulières, et ou domestiques, entre hommes et femmes, aînés et cadets, père et fils, inégaux et dominants. Ça c'est Balandier qui en parle, puisqu'il dit que dans la société, il y a des sociétés. Alors les griots, ce sont ceux qui s'occupent de faire de la musique. Ils se nomment griots, ou djeli, dans la langue malinque. Ces derniers, ils n'échappent pas au système hiérarchique de caste. Mais les malinqués font eux-mêmes une hiérarchie entre les instruments de musique. Et par là, par ceux qui les interprètent. Nous avons les instruments de percussion, les instruments avant et les instruments à cordes. Quant aux griottes, les femmes du griot, elles n'utilisent que la voix et le carignan. Et là, je parle de, même si ces instruments existent encore aujourd'hui, je parle encore de la période avant la décolonisation. Les griots, c'est quoi ? Ce sont des gens de la parole, du moins ceux qui utilisent les instruments à cordes. Donc il y a une hiérarchisation. Ce sont des médiateurs, ils sont aussi des porte-parole et des chanteurs de louanges, mais ce sont aussi, les griots, des musiciens. En fait, la musique est un souteneur de la parole déclamée. La mélodie, c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir des paroles. Ce sont ce qu'on appelle les contes, communément, et les griots qui chantent, les griots qui parlent, chantent les louanges, en fait, des nobles dont ils dépendent. Et c'est vrai aussi que les instruments à cordes permettent une plus grande liberté pour déclamer des choses, plutôt que en jouant de la percussion et en tambourinant. Selon l'instrument dont dispose le griot, il sera voué à accompagner soit le groupe des femmes, soit le groupe des hommes. Ce qui le classe d'emblée. Donc si on se base sur les attitudes, on peut faire la classification suivante. Il y a les instruments à vocation masculine, qui sont la voix, les instruments à cordes, les instruments à vent, et le balafon aussi, le xylophone africain, qui a une position intermédiaire. Et il y a les instruments à vocation féminine, qui sont les instruments de percussion. Ça ne veut pas dire que les hommes jouent la voix, etc. Non, je dis que les instruments à vocation masculine, c'est-à-dire pour les hommes, on joue ces instruments pour les hommes, et les percussions plutôt pour les femmes. Dans un mariage, par exemple, on verra les hommes et les griots d'instruments à cordes d'un côté, et les femmes et les joueurs de percussions de l'autre. Ainsi, il y a une participation plus grande aux manifestations masculines qui donne de la considération aux griots concernés. Si un griot est très mobilisé pour chanter des louanges, il aura un prestige social. De cette façon, il acquiert aussi une place, une influence considérable dans la vie sociale et politique, puisqu'il est raconté souvent dans les histoires mythiques ou réelles de l'Empire mondain que les griots ont influencé les rois ou ont influencé aussi les généraux de certaines armées. Depuis les années 60, ces attitudes ne sont plus aussi marquées, notamment dans les quartiers des grandes villes. Donc même si la relation étroite entre la danse et la musique est attestée dans toute l'Afrique, l'exemple de la société malinquée n'est pas unique. Là où il est unique, c'est sur sa hiérarchisation. Bien qu'aujourd'hui, il y ait de plus en plus d'hommes non griots qui dansent pour s'amuser, notamment chez les plus jeunes, tous les hommes ne dansaient pas pour les fêtes avant les indépendances. Parce que la danse concernait plus les femmes, je l'ai dit, les griots aussi, c'est-à-dire ceux qui sont avec les percussionnistes, ceux qui sont avec les percussionnistes, ils dansent, et les griots. Les hommes non griots dansent à des occasions bien particulières. Donc, ils dansent aussi. Autrefois, par exemple, ils dansaient avant et après un combat, mais ils ne faisaient que mimer ce qu'ils avaient fait ou ce qu'ils feraient. Ils dansent aussi pendant la période de circoncision, et pour le Dulumba aussi, qui est en fait une danse où il y a une mise en scène qui nous paraît en tout cas une mise en scène de l'extérieur, mais une mise en scène dans le sens où il n'y a pas de mort, dans le passage du statut de cadet à celui d'aîné. Voilà. On n'est pas dans des danses qui sont considérées comme des jeux et des amusements, mais plutôt dans des danses qui sont considérées comme rituels. Alors, les hommes sont censés, comme dans les sociétés traditionnelles rurales, comme chez moi en Gascogne, opérer une division des émotions, puisqu'ils sont éduqués pour éviter toute forme de réaction publique émotionnelle qui pourrait nuire à un élan viril de fierté et d'honneur. C'est pourquoi ils ne chantaient pas ni ne jouaient d'instruments de percussion, car cela cultivait l'élément féminin, c'est-à-dire la tendresse, la compassion, et surtout l'expression. Ça, c'est une analyse psychanalytique, bien évidemment. C'est Sori Kamara qui en parle. Bien évidemment, il n'en avait pas. L'idée, c'est pas d'en avoir conscience de tout ça, parce que sinon, ça aurait changé depuis un peu plus de temps. Enfin, en même temps, il faut, on le sait, que les choses changent dans les structures sociales pour qu'elles changent aussi dans les mentalités. Alors, les mentalités, c'est un terme un peu ambigu, on va dire les structures sociales, les structures mentales. Voilà, alors c'est comme ça, je m'en tiens bien. Ça, c'est vive la sociologie. Donc, on peut deviner, comment le masculin devait s'afficher en public, dans les situations publiques. En même temps, quand je vous ai dit tout à l'heure, ou à l'instant, que ça ressemblait étrangement aux sociétés rurales de chez moi en Gascogne, c'est tout à fait ça. Il s'agit, en tant qu'homme, de ne pas montrer l'élément féminin avec les autres hommes. Sinon, on fait du volley-ball et pas du rugby. Ou pire, de la danse, mais ça, on ne peut dire. Alors, on peut deviner le masculin qui doit s'afficher dans les situations publiques. Alors, je dis public car la femme a plus de liberté dans le foyer domestique, où elle peut, par exemple, influencer les décisions son mari, n'est-ce pas, mesdames? Au regard de toutes les tensions que peuvent vivre ces femmes, dans une société où l'espace public est plutôt une affaire d'hommes, les fêtes sont donc l'occasion de danser devant toute l'assemblée. La danse est à la fois un exutoire efficace, hypothèse plutôt psychologique, mais il n'empêche, car elle permet aussi de montrer ses talents de danseuse et sa féminité désirable, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est vrai que les trépidations étourdissantes des tambours provoquent des réactions qui sont viscérales et qui sont très impressionnantes, surtout chez les jeunes femmes. On va regarder un petit truc. Si ça veut bien se rallumer. Alors, Richard Verrouillet, c'est pas mon nom de famille. Voilà. Ok. Alors, vous allez voir un truc où, bon, c'est pas forcément. C'est pas une femme qui danse, ce sont des hommes. Et ce n'est pas la société malinquée. Mais c'est pour vous montrer les trépidations du tambour, et vous allez voir, c'est très impressionnant. C'est la sorte qui démarre le zombie. Donc voilà les tambours, qui ne sont pas des djembés. Donc ça accompagne les mouvements des bras. Pour anticiper sur le fait qu'on ne joue pas n'importe quelle musique, nous en France. C'est-à-dire celle-là, on ne la joue pas. Les percussionnistes français ne la jouent pas en tout cas. Par les blanches ou les blancs. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais c'est pas la mode, vous comprenez? Donc les phénomènes de mode sont aussi des phénomènes très simples, on va dire. Donc là on voit un djembé quand même, mais qui n'est pas du tout utilisé comme chez les malinqués. Ici on est en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire. Des tambours baguettes, des tambours de main et des tambours en bois aussi. Donc l'idée c'est de ne pas bouger le haut du corps, c'est de ne bouger que les jambes. Et là vous allez voir ce qu'il va faire. Voilà. Ils ne sont pas deux, il est tout seul. Et là, ça va commencer à être impressionnant. Il est chaud, ça y est. Il est chaud dans le sens où il est chauffé. Maintenant, attention. Et bien sûr, il a toujours une oreille sur la musique. Hein. Tout ça, ça se fait en musique. Vous n'entendez que des sons. Alors, je vais avancer un peu. Mais bon, c'est très simple, mais alors ce qu'il fait, beaucoup moins. Là, il reçoit, parce que c'est important, un billet quand même. Sur une jambe, vous voyez. Et là, tout le monde trouve que c'est impressionnant, même dans sa culture, donc on lui donne. Michael Jackson, vous avez remarqué, peut aller se rhabiller, et d'ailleurs il est mort. Bon, je vais arrêter parce que je ne peux pas m'empêcher de regarder tout le temps. Voilà. On peut l'applaudir. Non, mais vous voyez, on est, quand le veuille ou non, on est impressionné. Donc le sauvage est fort quand même. Bon, c'est pour être un petit peu provocant. Alors, je vais parler des ballets africains, justement, qui ont été créés dans les années 50, en 52, par le chorégraphe guinéen Fodéba Keïta. Ces ballets africains vont s'imposer comme représentants de la culture africaine en général et en particulier de l'Afrique de l'Ouest, parce que les ballets africains ont été créés par un guinéen. Ballets africains, oui. C'est-à-dire la Guinée avait des ambitions panafricaines, on pourrait dire. C'est Couturé en tout cas, c'est sûr. Bien qu'il soit arrivé plus tard, c'est-à-dire en 58. Justement, après l'indépendance, en 58, c'est Couturé obtient le pouvoir et les ballets africains vont devenir l'ensemble national de la République de Guinée. Je rappelle aussi que ces ballets africains, créés par le chorégraphe guinéen Fodéba Keïta, ont été créés en France. Mais Sékou Touré se récupère cette culture en France par rapport des Guinéens, on est bien d'accord. Et les ballets africains vont devenir une espèce d'exemple formidable pour tous les pays africains, puisqu'on a une exigence, il se produit dans toutes les capitales du monde et remporte à chaque fois un vif succès. Vers 64-65, Sékou Touré va utiliser les griots du pays, les griots, donc, là, c'est ces gens qui sont faits pour danser, pour chanter, pour jouer, va utiliser les griots du pays pour être des ambassadeurs de la culture guinéenne par le moyen du spectacle. C'est la création du ballet national Djoliba. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les meilleurs griots d'ethnies différentes sont sélectionnés par étapes successives. On commence à la brousse, puis on va dans le canton, après le canton c'est la région, après la région c'est le pays. Et ces étapes successives sont en fait des élections sous forme de compétition, comme des tournois. D'abord dans le village, et puis on finit au national. Toutes ces ethnies différentes, ces griots d'ethnies différentes, vont se retrouver mélangées pour apprendre à faire un travail structuré et un travail organisé dans l'optique du spectacle. Du statut de griot, ces musiciens et danseurs, à l'indépendance, vont devenir des artistes, au sens occidental, porteurs en plus d'un message révolutionnaire vers les autres pays, puisque le système Sékou Touré est un système socialiste. Il s'agit en quelque sorte de l'application d'un message mené, même si Sékou Touré ne serait pas tout à fait d'accord par Senghor et Césaire, en tout cas qui revendique la liberté et la capacité à l'autodétermination des États africains. Les griots restent apparemment des médiateurs, ce qui était déjà leur rôle dans le système traditionnel, mais là, au lieu de gérer des relations à l'intérieur de leur société elle-même, ils vont présenter sous la forme de ballets, avec des danses, des chants, de la musique, les particularités de leur culture nationale et non plus ethnique. Vous pouvez voir le film Jungle Fola de Laurent Chevalier en 91, qui est sorti en France, qui offre quand même un matériau empirique intéressant pour voir ce qui s'est passé pour certains griots pendant le règne de Sékou Touré de 58 à 84. Je vous le donnerai ça aussi. Vous avez des extraits, des petits extraits qui forment tout cohérent. On va dire, vous avez en 12 parties, vous l'avez sur YouTube. Hein. On ne va pas le mettre complet, sinon ce serait trop chouette. Je vais aller plus vite. Après, bon, en 89, dans la continuité de Fodéba Keïta, il y a Italo Zambo qui a continué, mais là, en 89, on n'est déjà plus avec Sékou Touré. Mais ils ont bénéficié quand même d'une aura et d'un prestige énorme dans le monde entier. Voilà, donc de nouvelles formes d'organisation de la danse, chorégraphie, mise en scène, théâtre, ballet, costumes, objets exotiques et de la musique, appel, break. Les breaks, vous savez ce que c'est en musique? Vous avez entendu, la musique, elle ne s'arrête jamais. Bon, mais les Bresses, c'est une invention pour nous occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte de d'inventer ça pour nous, pour qu'on puisse. On les appelle, hein, on appelle. Normalement, il n'y a pas d'appel. Hein. Soit c'est des blocages, mais tu rentres quand tu veux dans la danse. Hein, voilà, pour faire une improvisation. Là, on n'est pas dans la chorégraphie. Ce n'est pas des mouvements d'ensemble, ce sont des mouvements individuels. Donc ce sont des inventions qui nous servent bien, parce que nous on aime bien l'ordre. Hein. Pensez-vous comment comprendre cette musique si on ne la pratique pas? C'est impossible. Ou alors c'est comme si vous prenez par exemple un solo de John Coltrane au saxophone et que vous essayez de le mettre au minimum. Quoi. Puis pof, signe Béchette. C'est pas la même quand même. Alors, deuxième thème, ces formes, comment se sont-elles constituées, ces nouvelles organisations de la danse? Ben, on assiste quand même à un phénomène d'emprunt, là aussi, qui, par la mise en forme scénographiée, fait implicitement croire que les choses que l'on voit sont telles qu'on les voit. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les spectacles. Que c'est étrange de vous sortir des guillemets de la forêt centrafricaine pour les mettre dans nos centres culturels, sur scène. Autrement dit, lorsqu'on regarde un spectacle de ballet africain, par exemple, nous avons l'impression qu'il exprime, par la musique et la danse, une image fidèle de la fête au village. C'est la joie de vivre, l'insouciance. Mais surtout fidèle à nos préjugés et nos représentations d'une société exotique, avec tout ce que cela implique historiquement. J'en ai parlé juste tout à l'heure. En réalité, ces ballets, tout en conservant un contenu spécifiquement africain, ont une organisation chorégraphique, scénique et théâtrale, de mise en forme empruntée au système chorégraphique occidental, ce qui fait que nous apprécions aussi beaucoup plus facilement un spectacle qui est riche en couleurs, en rebondissements, en pensant que l'organisation est africaine. Or, elle ne l'est pas. Anne Decoré-Aya, dans l'exotique, l'ethnique et l'authentique, nous dit « Découverte sur les scènes occidentales à partir de la fin du 19e. Les danses d'ailleurs ont été appréhendées au travers de différentes désignations et catégories discursives qui décrivent un type de rapport à l'altérité. Qualifiées d'exotiques jusqu'aux années 40, puis d'ethniques ou encore de danses du monde, leurs différentes dénominations renseignent sur nos manières de construire et d'inventer l'autre. Si leur découverte occasionna une réévaluation des critères esthétiques propres aux formes occidentales de danse et révéla l'existence d'une multitude de pratiques chorégraphiques dans le monde, elle s'effectua au travers d'une perception imaginaire. Le paradigme de l'authenticité gage d'une altérité non falsifiée et ses deux corollaires, qui sont l'ancestralité et l'immuabilité, sont des traits dominants. Par exemple, lors de la Biennale de la danse à Lyon de 1994, qui était pour Mama Africa, j'y étais, vous m'avez vu, j'ai assisté au spectacle de quatre ballets dits traditionnels. Le ballet folklorique de Bahia dans, au Brésil, le ballet national de la République de Guinée, j'en ai parlé un instant, la troupe Yankali de Côte d'Ivoire et la troupe Logwe du Burkina Faso. Eh bien, cette dernière a généralement moins plu que les autres. Pour quelle raison? Eh bien, je crois que la troupe du Burkina présentait une image trop africaine, justement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, comme dans les autres, une mise en scène de spectacle telle que nous l'attendons, avec des changements de rythme rapide, de son, de costume, en gros, une histoire théâtrale. Et il en est de même pour les Pygmées, Aka de Centrafrique, venus à Paris pour des représentations en 1992. Les organisateurs promettaient un événement unique, pensez donc des pygmées tout droit sortis de la forêt centrafricaine, qui n'avaient jamais vu à quoi pouvait ressembler l'Europe. Eh bien, personne n'a adhéré à leur danse et à leur musique. Ça a été un échec total, parce que lorsqu'on les filmait, il était impossible de les suivre, car les danseurs sortaient à chaque fois du champ de vision de la caméra, malgré le brief qu'ils avaient eu, ils ne comprenaient rien. Et la musique était beaucoup trop longue, parce qu'il ne faut pas oublier que la musique est très très longue, elle peut être très très longue. Si on leur dit vous allez nous faire le rituel de la musique de la première arrivée des pluies, de la saison des pluies, ça peut durer pendant une demi-heure. Donc à chaque fois on leur disait stop sur le côté de la, sur le côté de la scène, dans les coulisses, arrêtez, arrêtez. Bon, c'était impossible de les arrêter de jouer, de danser. Donc ce fut un échec total. Et personne ne leur a pardonné. Donc on voit ici, avec cet exemple des pygmées, une autre forme de motivation occidentale économique colonisatrice, c'est-à-dire que depuis les années 80, on exploite commercialement des gisements culturels qui entrent dans la mouvance des cultures du monde, des musiques du monde et de la world music. Mais à la même époque que les ballets traditionnels africains, qui étaient plutôt étatiques ou nationaux, dans les villes des années 60, eh bien, l'électrification des instruments a provoqué un enthousiasme sans précédent. La guitare, la basse, la batterie, le trombone, le saxophone et plus tard le synthétiseur dans les années 80 a accompagné la fièvre d'espoir de la décolonisation. Donc il y a eu une véritable révolution culturelle des jeunes. Et en même temps que les ballets, la musique moderne, de notre côté, dans les cabarets, dans des lieux beaucoup plus fermés, a servi de révolution à tous les jeunes de la ville aussi. Mais revenons aux ballets africains. Donc, les artistes danseurs et les musiciens de Guinée. Là, on va parler d'ici, de la France. Les artistes danseurs et musiciens de Guinée, du Sénégal, du Burkina Faso ou encore du Mali, ont tourné dans le monde entier. Mais tous ne sont pas revenus de leur tournée. C'est-à-dire que dans les années 70, pour des raisons à la fois économiques et historiques, mais aussi personnelles, car l'entraînement dans les ballets relevait de la formation militaire, c'est très dur, certains artistes se sont installés en Europe et aux États-Unis. Dans un contexte social de libération de mœurs et de développement de bien-être personnel, de nouveaux rapports à l'éducation, de la pédagogie, l'ouverture aux cultures du monde et leur système symbolique ont été des atouts indispensables pour nourrir un nouveau corps et un nouvel esprit. Les blancs, qui sont en majorité des blanches, des femmes, sont impressionnées par la facilité avec laquelle le corps noir lâche prise. L'occasion de se désaffilier d'une histoire éducative un petit peu trop univoque et terne, et en même temps l'occasion aussi de renouveler le champ de, ou l'espace social de la danse européenne, de la danse occidentale. Ces femmes veulent jouer et danser, donc elles organisent des cours. Ce qu'on remarque statistiquement, c'est qu'en général, ce sont des femmes. Elles organisent alors des cours, s'investissent généreusement et souvent gracieusement, créent des associations dont le but est de transmettre un patrimoine culturel et artistique, proposent un travail rémunéré, et donc aident cet étranger à concevoir qu'il est possible de vivre de son art et de l'intégrer à des pratiques culturelles françaises et pratiques culturelles d'ici. Puis par la suite, ce sont des stages au pays, et au Sénégal surtout, dans un premier temps, qui était un des pays, en tout cas dans les années 70 et 80, un des pays les plus souples pour le tourisme culturel. Ces alliances avec les femmes laissent souvent place à des histoires amoureuses, sérieuses, avec des enfants, soulevant l'hypothèse aussi que la femme facilite l'intégration économique et sociale des artistes hommes étrangers. En sociologie, on parlait de stratégie matrimoniale inconsciente, mais on verra si je vous mettrai des articles dérangeants sur le site. Après un développement important dans les années 90, ces associations d'artistes, au début anciens membres de ballet, hein, laissent place, semble-t-il, à d'autres espaces sociaux de pratiques de danse plus visibles médiatiquement. Comme par exemple la salsa et le tango, ou encore les danses africaines modernes, mais plutôt pratiquées en boîte de nuit, sur des musiques électriques ou électroniques. C'est par exemple le coupé décalé, le tombolo, la zumba, le fitness, la zumba fitness, raga dancehall, le kudulu, le ragafo, le booty shake. Yeah! Alors c'est quoi tout ça? Alors la bibliothèque, où es-tu? Tu es là. Peut-être que tu me connais déjà, oui, mais moi je te connais. hier. Voilà, donc il y a des danses africaines tendances.
Si vous m'entendez,
moi
j'ai une
beaucoup de ski. Voilà, il y a un peu de la dégaine hypote. Ouais, il y a un peu d'humour quand même aussi. Voilà, il appartient à tout le monde de couper des cailloux. À ta manière de trouver les façons de danser, donc ça permet la liberté individuelle d'interprétation. Aussi, là je vous ai fait un grand panorama, c'est très très, vous voyez que les raisons pour lesquelles ces filles ont envie de se libérer ne sont pas du tout les mêmes que dans les années 70, et pourtant ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel comme désir d'émancipation, désir de liberté. C'est souvent délicat quand on traverse comme ça différents mouvements, enfin quand on les traverse, ou en tout cas moi qui suis musicien, j'ai constaté depuis 20 ans qu'on ne vient pas chercher les mêmes choses. Alors on vient s'éclater, on vient toujours s'éclater, mais il y a moins de recherche intérieure et spirituelle, presque. Alors, spirituel c'est un terme un peu gros, hein, mais il y a moins de recherche intérieure de bien-être intérieur qui pourrait considérer, qui sont vécus en tout cas différemment par d'autres générations. Voilà. Et puis, d'autres générations, et puis l'âge aussi. Je pense que ça y fait. Mais même si pour être sage, il faut être fou, préalablement, c'est pas la même sagesse quand on a 20 ans, en tout cas. Donc, couper des galets, hein. Donc, ce sont des musiques, vous avez remarqué, sans le tambour, ou du moins avec des bandes de son. Hein. Alors, ces pratiques, elles concernent, je viens de vous le dire, d'autres intérêts, d'autres individus, et donc d'autres espaces sociaux aussi. Même si Maïmouna, elle est à Paris, elle ne donne pas forcément des stages de danse africaine comme une autre fille de son âge qui viendrait du pays directement, et qui donnerait des stages plutôt de danse africaine un peu plus traditionnelle, un peu plus authentique, entre guillemets. Donc ça amène quoi? Ça amène la question de la durée de vie d'un monde social. Surtout lorsqu'on n'a pas, surtout lorsqu'il n'est pas historiquement construit dans les académies ou dans les grands corps comme on peut connaître sur la littérature en France, etc. Bon, pour revenir aux ordres de djembé, je vais terminer. Nous avons vu que dans leur société, ils sont déconsidérés ou dévalués, en tout cas par rapport à d'autres instruments plutôt mélodiques, plutôt qui permettent la parole, puisque ce sont des musiciens, des percussionnistes, qui ont affaire en fait aux femmes. Donc vous voyez, ils ont affaire aux femmes là-bas, mais ils ont affaire aux femmes aussi ici. Ils ont tout compris. Mais comment ne pas voir, je vous ai parlé du film Djembe Fola tout à l'heure, comment ne pas voir avec Mamadi Keïta, dans le succès de Mamadi Keïta en Occident, comme une espèce de promotion inespérée, une revanche sur le fait d'être misérable dans le pays d'origine et de se retrouver star internationale. Car la concurrence est dure au pays aujourd'hui pour les mariages et les fêtes. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'hommes non griots qui jouent le tambour. Et l'offre est donc saturée. L'argent a remplacé presque partout le prestige social, mais en même temps, le prestige social apporte de l'argent. Il est aussi accompagné de possibilités rémunératrices. Donc malgré les échecs et les difficultés de vivre ici, eh bien, le désir de venir en Occident reste très fort. Mamadi Keïta, on pourrait dire qu'il est un entrepreneur culturel, mais qui a été aussi placé par une femme, par sa femme, en tout cas à l'époque, depuis il a divorcé, est aussi un entrepreneur culturel qui a inspiré des carrières et a encouragé aussi des vocations. Mamadi Keïta dit par exemple qu'il doit tout au djembé, car c'est grâce à cet instrument en bois et peau de chèvre que j'ai réussi socialement et qu'il a réussi économiquement aussi. Donc la trajectoire de ce joueur de tambour, né dans un petit village au fin fond de la Prousse, a de quoi relever du miracle, et quelque part partir de rien et réussir une carrière internationale représente quand même la réussite par excellence, une forme d'American Dream, je pars de rien et j'arrive à tout. Mais c'est loin d'être le cas pour tous les artistes africains qui vivent en France. Ici, le djembé en Occident, il est valorisé, au détriment d'autres instruments qui l'accompagnent. C'est-à-dire les instruments qui l'accompagnent, ce sont des instruments qui ne sont pas des instruments solistes. En tout cas, pas en apparence. Le joueur de djembé, qu'est-ce qu'il fait? Il occupe le devant de la scène, pour faire un solo, par exemple, spectaculaire. Cette place de soliste le propulse au rang des vedettes. En Occident, il y a aussi une hiérarchie entre les musiciens. Le soliste, ce n'est pas l'accompagnateur. Donc le soliste a une autorité sur les autres, surtout lorsqu'il est autorisé par les autres à pouvoir exercer son autorité. Sa position consiste à décider de la musique à jouer, à prendre la parole musicale sans qu'on ait besoin de la lui donner, à proposer des interprétations et parfois des compositions. Donc on peut repérer des indicateurs objectifs de la position du soliste par ses choix. Donc le savoir-faire, la technique, la pédagogie, tout ce qu'on veut. Par des relations sociales, à vrai dire. Et c'est peut-être aussi la position visible de mise en scène de l'instrument soliste, qui est immédiatement donnée à voir, qui a un effet de maîtrise instrumentale remarquable et spectaculaire. En remarquant cette maîtrise instrumentale, ça incite le novice à choisir le djembé plutôt que les doundouns ou des instruments cylindriques qui ne font que l'accompagnement. D'ailleurs, à ce propos, j'ai constaté que les hommes, en majorité écrasante, ont une nette préférence pour le djembé. Les filles, quant à elles, acceptent volontiers de jouer les flûtes horizontaux et elles laissent le djembé aux hommes. La question reste posée. On peut avoir une réponse psychanalytique, une réponse anthropologique. En tout cas, majorité écrasante d'hommes qui préfèrent le djembé. J'ai parlé de la position du soliste aussi. Ce n'est pas pour rien. Je terminerai en disant que les musiciens et les danseurs de musique africaine, quelle que soit la ville française et leur expérience des choses africaines, participent en fait, malgré leurs différences, tous à un univers social, le même univers social, dans lequel ils luttent, puisqu'ils jugent. Les maîtres tambours censurent toutes leurs. Certains maîtres tambours censurent les lèvres de certains, y compris dans les enseignants européens. Chacun prend position pour jouer son joueur de djembé fétiche. On parle rarement de quelqu'un qui joue bien du doundoun, par exemple. En tout cas, ce n'est pas un joueur fétiche. On a des jugements, on a des positions, on a des prises de position, des stratégies, toutes les attitudes et des distinctions pour la légitimité de la pratique. Et pourtant, ils n'appartiennent pas culturellement à la chose pour laquelle ils luttent, mais ils se la sont réappropriés. Alors bien entendu, nous savons que cette pratique est exotique, mais le plus important, c'est que nous la vivons comme notre, jusque dans nos tripes, et c'est existentiel et vital de défendre ce que nous faisons et aimons. En gros, de justifier nos goûts et nos intérêts. Mais en même temps, comme la musique et la danse est décontextualisable, nous pratiquons sans nous demander pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Qu'est-ce qui sera important de dire là-dessus? Oui, le fait d'avoir des choix qui peuvent, pas seulement sur le genre de djembé fétiche, mais qui peut aussi dire que, par exemple, la musique malinké pure, c'est la musique guinéenne. Il faut trois fûts et un djembé. La musique malienne, non, je n'aime pas. Mais en fait, en général, la musique malienne, les Blancs la comprennent beaucoup moins que la musique guinéenne, parce qu'elle n'est pas passée par le prisme, si vous voulez, d'une musique qui a changé, d'une musique plus simple. Elle est très mécanique quand elle est jouée par les Blancs. tout cas au tout début, cette musique. Il faut sacrément avoir un cerveau qui pense plus l'espace que le temps, pour comprendre les choses ternaires et binaires, par exemple, ou l'enchaînement d'une même mélodie binaire et ternaire. Par exemple, si vous faites tac, 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 bon, ça c'est binaire ou ternaire? C'est ternaire. Tac, 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 et 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, tac, 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 tac. Et bien avec la même mélodie, tac, 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 je vous la fais binaire. Tac, 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 tac. C'est la même. Donc j'en fais deux binaires et deux ternaires. Deux ternaires et ensuite deux binaires. D'accord? Tac, 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 tac. Donc le binaire est plus serré, comme diraient les enfants, et le ternaire est plus rond, comme moi. Je vais terminer par quelque chose de très triste. Donc l'engouement des... Ça sera ma conclusion. On fait une conclusion. L'engouement des années 80, c'est-à-dire, ce sont quoi? Les années Mitterrand et les années de l'invention aussi de la world music, je le rappelle, et de l'ouverture à l'autre. Années dans lesquelles j'ai complètement baigné et je me suis fait avoir. Pour... Oui, ben oui, ben, c'est-à-dire que je ne me suis pas voir, mais en même temps, ça me plaît, donc j'ai envie de continuer un peu aussi. Autant, c'est pour ça que je suis là, à l'université populaire aussi, c'est que je crois qu'il est possible de communiquer des choses, c'est-à-dire le mot lancé, ou des trucs. L'engouement des années 80 pour la pratique du djembé ou la pratique des percussions, mais particulièrement du djembé, là, et a laissé place peu à peu à une baisse de moitié de la fréquentation des cours depuis les années 80. Donc, le marché, aussi en France, est saturé. La concurrence est rude, comme au pays, et l'enseignement de la percussion par les Blancs, indépendamment de leur qualité, se dilue dans les pratiques culturelles de loisirs. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'art, on est dans les pratiques culturelles de loisirs. Il se développe donc une forme de libéralisme à outrance sur l'enseignement. Dit autrement, n'importe qui peut donner des cours de danse ou des percussions, y compris sur Internet. Le caractère oral de cette musique, n'ayant pas la même histoire institutionnelle, vous l'avez compris, que la musique académique, la protège moins et chacun y va de son interprétation personnelle pour inventer des pas, par exemple en danse, au nom de l'expression de la liberté artistique. Aujourd'hui, peut-être s'il y a moins de préjugés sur la figure du noir, nous contribuons quand même à reproduire un fantasme du métissage heureux, où le blanc s'autorise à créer un nouveau monde qui est clos sur lui-même, puisqu'il n'y a pas de corporation, tout en prenant l'ouverture, qui est une forme déniée de narcissisme, parce qu'il est construit sur place, ce monde clos est construit sur place, il a aussi une économie précaire. Le mode amateur qui ne dit pas son nom est éloigné de la création critique, et en même temps il est reproducteur, c'est-à-dire qu'on prend, on recrache, on varie, mais sans discours d'engagement artistique, c'est-à-dire critique du même acabit que la politique ou du même acabit que les mouvements sociaux en Afrique des années 60. Et tout ça se fait avec la complicité des artistes noirs, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de formation autre que leur capital corporel de danseur et de joueur, ou d'être griot. Et quand je dis sans diplôme, ça ne signifie pas bien évidemment que c'est parce qu'ils ont des diplômes qu'ils n'ont pas de diplôme qu'ils sont complices. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très difficile pour eux d'avoir une position critique et une position exigeante sur leur art. Sinon, ils perdraient beaucoup de clients parce qu'il y aurait une relation sur l'analyse et non pas une relation enchantée de la danse ou de la musique. J'ai discuté avec eux, je les connais bien, ce sont mes amis, puisque je fais partie des rares blancs à ne pas avoir eu de problème d'argent avec les noirs. Étant donné que l'argent, je m'en fous. Donc, je lance un appel, foutez-vous de l'argent, ça se passe très bien. Et rendez service. Donc ces artistes africains n'ont pas d'autre choix que de s'allier avec ceux ou celles qui leur proposent, si ce n'est pas être une star, au moins être une vedette d'un milieu, d'un petit groupe, et au moins de travailler comme on peut, c'est-à-dire souvent, comme on dit souvent dans le métier, à l'arrache. Ce monde qui est né dans les années 70 a disparu peu à peu, héritant malgré lui des rendez-vous manqués de l'histoire. C'est une réintégration des cultures que nous avons colonisées, colonisation et domination, que nous n'avons toujours pas changé, même pour quelque chose qui pourrait être considéré comme faisant, échappant à cette colonisation et cette domination, c'est-à-dire les arts et la culture. Je n'ai pas le temps de vous parler de la danse contemporaine africaine, mais heureusement elle existe. Et beaucoup d'artistes de danse contemporaine sont mobilisés dans des chorégraphies prestigieuses, mais ce sont des carrières personnelles, ce ne sont plus des carrières sociales, puisqu'on aurait eu l'occasion de créer véritablement un monde social critique, à la fois pour ces musiciens et ces artistes africains en connaissant leur pays et leur situation, et en même temps en pouvant critiquer tout l'impensée de nos histoires avec la colonisation et avec la construction de l'intégrité. Je vous remercie.